Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack avec Laurent Deboeuf.
Troisième heure de Soundtrack, j'en parlais déjà en début d'émission, hein, puisque maintenant nous allons consacrer une séquence à Dire Straits et une séquence justement ici sur l'album Brother in Arms qui fête ses 40 ans, donc cet album est sorti. C'est ici, hein, c'est dans ces jours-ci, je crois que c'était samedi, en tout cas il était déjà à l'honneur vendredi toute la journée sur l'antenne de Classique 21. Et pour en parler, il en a déjà parlé aussi d'ailleurs hein, sur l'antenne de Classique 21, c'est Dominique Raguieb qui est avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. 40 ans tout de même.
Et un fameux album, ça je pense que le mot est encore faible.
Ah oui, Brother in Arms, sorti en 85, donc cinquième et avant-dernier album du groupe britannique hein, Dire Straits, avec ici évidemment en lead guitare Mark Knopfler. La genèse d'un album qui s'inscrit dans un contexte, souvenez-vous, particulier, hein, marqué par des bouleversements sociaux et politiques, hein, notamment à ce moment-là, c'est la guerre froide, c'est cette fameuse grève des mineurs en Grande-Bretagne qui a duré un an, véritable bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. gouvernement Thatcher qui voulait fermer les exploitations de mines. Et puis aussi, quelque part en tête de tous les Britanniques, il y a cette guerre des Malouines. Et tous ces éléments ont profondément influencé le contenu des textes de cet album. Car au-delà de la musique de cet album, et des productions évidemment très très soignées, les thèmes abordés sont riches de sens et avec toujours aussi une petite certaine poésie dedans. Mais comme souvent d'ailleurs chez Mark Knopfler, il y a un vrai travail d'introspection. Par exemple, le morceau qu'on vient d'entendre,
So Far Away,
qui ouvre l'album, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un mec qui se lamente à propos de son mode de vie, celle d'un gars toujours en mouvement, un itinérant, comme on dit aujourd'hui, qui s'éloigne un peu plus chaque jour d'une personne très très chère. Alors c'est vrai que dans cet album, la guerre, la fraternité, l'aliénation sont d'autres sujets qui sont abordés dans cet album Brother in Arms. Rien que pour la plage titulaire de cet album qui referme ce disque est particulièrement évocatrice. Elle pointe ici les horreurs de la guerre et le vécu des soldats. C'est Brother in Arms, un hymne anti-militariste destiné à quelque part à interpeller l'auditeur sur le sens des conflits militaires. On est en 1985.
Comme quoi les années 80 qui pourtant, vu aujourd'hui, on se dit ah c'était le bonheur les années 80, mais non, il y avait quand même aussi des problèmes.
La guerre froide.
Oui, voilà, exactement. Puis l'apartheid, etc. On s'en souvient, la famine aussi.
Oui, mais à une époque justement, dans les années 80, où il y a eu l'émergence justement de toutes ces grosses productions qui avaient un but caritatif, puisque quand on pense effectivement à la fin de l'apartheid, eh bien, ça a été entre autres lié avec les différents concerts et avec surtout beaucoup d'artistes qui étaient engagés pour la fin de cet apartheid. Et puis, quand on parle évidemment de l'Éthiopie, c'est évidemment le Live Aid dont on fait le 40e anniversaire cet été. Alors, c'est vrai que Brother in Arms, côté alors musical, il a été enregistré à Londres, à New York pour le mixage, et puis surtout dans les Caraïbes, sur cette île de Montserrat où avait construit Sir George Martin ce célèbre studio, Studio Air, où Police, Stevie Wonder, Elton John, Frank Indochine aussi enregistré là-bas. Donc, pas mal d'artistes et groupes sont venus enregistrer leur album. Pourquoi ils allaient là-bas ? Parce qu'en fait, ils étaient quelque part à l'abri des regards. C'est une île des Caraïbes, et donc ils avaient leur studio. Ça a été loin un peu de tout pour réfléchir. Un studio qui malheureusement a été détruit en 97 après une éruption volcanique. Et puis même Sir George Martin est resté jusqu'au bout. Le cinquième Beatles qui est resté jusqu'en 2016. Aujourd'hui, je crois que sur l'île, il n'y a que 5000 personnes. Donc, Brother in Arms, un disque très travaillé, enregistré là-bas dans ce fameux studio Air de Montserrat. Un disque qui, à ce jour, s'est vendu à plus de 31 millions d'exemplaires. Un succès qui fut immédiat, souvenez-vous, et surtout de l'autre côté de la Manche, puisque dès sa sortie, l'album s'était écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires rien qu'au Royaume-Uni. Alors, on peut se poser la question, Laurent, et je vous pose la question ce matin, en quoi cet album est si important dans l'histoire du rock ? Ça, c'est peut-être la question qu'il faut se poser, parce qu'on peut faire des heures et des heures sur ce disque.
Je sais que le monde musical était déjà en passe de changement depuis l'ère punk de la fin des années 70, et Dire Straits, lui, est là ici avec une œuvre qui est extrêmement léchée, extrêmement bien produite, et puis c'est quelque chose qui a laissé une trace indélébile au niveau musical. Maintenant, c'est peut-être pas ce que vous attendiez comme réponse, je ne sais pas.
Si, mais justement, on peut se poser la question, c'est ça qui est amusant. Moi, je dirais que c'est un peu le trait d'union entre deux époques. Ça parle des débuts du rock'n'roll, qui sont évoqués dans Rock of Life, Bibabaloula de Gene Vincent, qui est même cité. Le tout sur un clavier assez sautillant, qui est l'âge joué par Alan Clark, qui a intégré Dire Straits en 1980, qui a aussi travaillé, Alan Clark, sur l'album Private Dancer de Tina Turner, album qui a relancé sa carrière grâce à qui ? Grâce à Mark Knopfler. Là, quand on écoute ce clavier de Walk of Life, ça sonne terriblement 80s. Et si on se... Alors, c'est vrai qu'on se focalise toujours un peu trop sur la guitare, forcément, la guitare de cet album, mais il faut peut-être tendre l'oreille et s'intéresser aux autres instruments et surtout aux claviers et aux textures qui sont utilisées, les nappes et les textures qui sont dans cet album, parce que c'est un vrai travail de groupe. Alors, quand on écoute bien les claviers et la manière dont les morceaux sont construits, eh bien, on a des morceaux qui sont finalement assez hors format. C'est des longs morceaux qui font parfois plus de 8 minutes. Et puis, dans le traitement justement des sonorités, on est parfois proche peut-être de groupes comme Pink Floyd ou d'autres groupes des années 70. Il y a encore ce côté vraiment hors format où on essaye de développer toujours avec une intro, un développement justement, et puis on n'hésite pas à mettre des passages instrumentaux terriblement produits. Hein. Mm-hmm. C'est d'ailleurs Mark Knopfler qui est le producteur de cet album. On a aussi des instruments qui viennent donner une petite lumière. Je pense par exemple au morceau Your Latest Trick avec le saxophone Michael Brecker, hein, qui a travaillé avec Steve Lydan évidemment, et qui a travaillé avec
qui a servi aussi dans les publicités.
Oui.
On l'a entendu énormément cette chanson-là.
Parce que justement, il y a cette construction et il y a ce travail dans l'exploitation d'une certaine spatialisation du son. Oh, je pense aussi au morceau Why Worry qui fait là aussi 8 minutes et dont les deux dernières minutes sont uniquement instrumentales avec des notes comme ça de synthé qui semblent être assez aériennes.
Volatiles comme ça.
Volatiles, ouais. Et puis là aussi, autre invité, Tony Levin, qui est sur ce morceau. Donc, alors c'est vrai que s'il y a pas mal d'atmosphère dans cet album, il y a des morceaux qui s'inspirent aussi d'un genre un peu plus traditionnel, voire folklorique. Je pense au morceau The Man's Too Strong, qui commence de manière très folk, mais dans l'esprit de la tradition folk, on raconte une histoire. Ici, entre autres, on reparle de la guerre et de l'héroïsme. Et puis, ce morceau qui, dans son intro, fait un peu penser à une production de Dylan. D'ailleurs, Mark Knopfler a joué avec Dylan.
Ah, oui.
Progressivement, le titre se développe en devenant un peu plus rock et même se termine avec, au fond, un son terriblement 80s avec des claviers. Morceau qu'on n'entend pas souvent, d'ailleurs, extrait de cet album de Dire Straits.
La livraison à Chapelle.
Hurlément, ouais, c'est fait.
Ah, et celle à Namur.
À Namur, oui, ça aussi c'est fait.
Anglien.
Fait.
Mons.
Fait.
Bon, ben on dirait que ta journée est faite alors.
Cool, je serai à l'heure pour les enfants. Ah, je serai même trop tôt.
Découvrez le nouveau Nissan Interstar avec ses 13 mètres cubes d'espace de chargement pour une efficacité optimale et jusqu'à 5 ans de garantie. Disponible immédiatement avec des offres exceptionnelles sur les véhicules de stock. Nouveau Nissan Interstar, efficacité prouvée, temps libre assuré.
Nissan.
Classique 21, 9h midi, Soundtrack.
I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal and I'm fading away. Father, please hear my confession. I have legalized robbery, called it belief. I have run with the money, I have hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks. Invented memories. I did burn all the books. And I can still hear his laughter. And I can still hear his song. The man's too big. The man's too strong. The sun rose on the courtyard, and they all did hear him say,
You always was a Judas, but I got you anyway. You may have got your silver, but I swear upon my life, your sister gave me diamond. And I give them to your wife. Oh, Father, please help me, for I have done wrong. The man's too big.
The Man Too Strong est donc extrait de Brother in Arms, cet album de Dire Straits qui fête ses 40 ans. C'est un album intemporel, j'ai envie de dire, même si effectivement on est à la 40e année, mais cet album, on peut le remettre aujourd'hui. C'est le genre de choses qui passe crème.
Oui.
Voilà, c'est toujours le genre d'album idéal aussi pour faire de la route. Hein. C'est vraiment très agréable à écouter. On peut mal de s'énerver avec ça.
Oui, mais parce qu'aussi, dans cet album, il y a pas mal de titres qui sont très narratif, on raconte à chaque fois une histoire ou des histoires. Et puis, il y a, évidemment, on l'a dit, hein, tout ce traitement sur les claviers, l'orchestration, et puis il y a évidemment le son des différentes guitares, parce qu'il y a beaucoup de guitares très très différentes sur cet album. Et puis il y a cette pochette iconique.
Avec justement cette guitare qui est en couverture.
C'est une guitare des années, enfin ce qu'on appelle Dobro, c'est ça ?
C'est une longue histoire, parce que c'est une National Style O qui date de 1937. Alors on appelle ça des Dobro, c'est un petit peu par déformation parce que au même titre que National, Dobro en fait est une marque qui appartient aujourd'hui à Gibson, et National existe toujours. Si ce n'est que à l'époque où Mark Knopfler l'a acheté, c'était grosso modo au même moment qu'ils ont sorti leur premier album. C'était un instrument qui était complètement passé en désuétude et qui n'était plus produit depuis les années 50.
Ouais, c'est 41, 42 dans ces
Mais ce sont en fait les ancêtres des guitares électriques, parce que pour sortir, lorsque vous avez tout un big band qui joue et que vous avez une guitare qui doit sonner, pour que ça puisse sortir à l'époque où l'électricité n'existait pas encore, eh bien on a imaginé cette sorte de guitare avec un cône en aluminium qui prenait la forme
d'une caisse de résonance, en fait, pour avoir cette caisse de résonance.
Voilà, qui envoyait le son un petit peu plus loin, qui permettait de sortir du mix. Et ce qui est amusant, c'est que celui qui a imaginé cette guitare, il l'a fait avec un guitariste qui s'appelait Beauchamp, mais j'ai oublié le nom. Et aussi avec Adolf Rickenbacker, qui leur avait prêté les ateliers donc pour pouvoir élaborer ces guitares et les commercialiser. Ce qui est assez amusant, c'est que Rickenbacker est aussi à l'origine de la première guitare électrique. J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça, avec donc ce qu'on appelle la poêle à frire, que notamment David Gilmour en a une aussi. Hein, c'est le genre de guitare qu'on joue à plat comme les lap steel, comme la musique hawaïenne. Et là, on rejoint encore la musique hawaïenne, parce que quand vous preniez la Steel O donc de Mark Knopfler, il y a un des décors hawaïens dessus. Hein, ce sont des palmiers qui sont représentés dessus. Et grâce à Mark Knopfler, eh bien cet instrument est revenu, on va dire, au goût du jour. Il y a des gens qui se sont interpellés, qui se sont dit, tiens, mais ça a l'air pas mal, ces instruments-là. Et donc, du coup, il y en a qui en ont refabriqué. Je pense à Mike Lewis, qui est un luthier américain, mais qui vit en France depuis longtemps, qui en a fait aussi, d'ailleurs, pour Mark Knopfler. Il y a vraiment, maintenant, des tas de marques Dobro, hein, comme je le disais, qui existent encore et qui fait partie de l'usine Gibson.
Et autre petit clin d'œil, on voit cette pochette avec, donc, cette guitare de style online. Et puis, quelques années plus tard, en 89, il y a un disque qui sort, qui est signé par The Bose Brothers. Bose Brothers, au sein duquel, c'est un orchestre au sein duquel on y retrouve Mark Knopfler et Dave Edmunds. Et la pochette est exactement la même pochette avec cette même guitare, avec le manche un peu tordu. Alors, c'est quoi cet album? C'est un album de blues traditionnel qui avait été enregistré en 1973 par Mark Knopfler, alors qu'il n'était pas encore connu et qui est donc ressorti après le succès des albums de Dire Straits.
Et cette guitare, on la retrouve aussi dans Notting Hill Billies, projet qu'il a voilà. fait sur le côté, où là, c'était de la musique américaine,
quoi.
C'était
les années 80, oui, c'est ça.
Voilà, tout à fait.
Projet. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de sons guitare. Alors, il y a aussi des titres qui sont très, très rock, comme par exemple le morceau One World.
Absolument, qui lui a été joué sur une Steinberg. Voilà. Comme ça, vous savez tout. World pour Dire Straits, c'est donc toujours extrait de cet album Brothers in Arms. On a parlé de guitare, on a parlé de l'album aussi, et il est très teinté en fait par toujours la Stratocaster aussi, mais aussi la Gibson Les Paul. Et là, elle tient un rôle majeur aussi d'ailleurs dans, je vais dire, la plage titulaire de l'album, mais également le morceau qui est devenu culte. Peut-être même encore plus culte que la plage titulaire de l'album.
Oui, mais si on s'intéresse vraiment à cet album, c'est vraiment le côté production. Hein. Je rappelle que c'est Mark Knopfler qui est le producteur et que quand ils sont entrés en studio, il avait déjà écrit toutes les chansons. Donc il n'y avait plus qu'un travail d'enregistrement et un travail autour de la manière dont on allait habiller ces morceaux, comment ça allait résonner. Parce que à cette époque, Mark Knopfler avait eu déjà d'autres projets, notamment des créations de bandes originales de films, avec notamment la bande-son de Local Hero. Donc lui, il avait vraiment voulu faire un côté un peu plus spatial pour que cet album sonne. D'autant plus qu'en fait, cet album a bénéficié de quoi ? Bien, du support de la sortie du CD. C'est le premier album de l'histoire du rock qui a été enregistré en numérique. Et donc, c'était un peu la manière, je ne vais pas citer la marque, mais lorsqu'il lance le CD, de dire, bah oui, le rock maintenant est aussi accessible dans cette version CD, puisqu'avant, c'était que des musiques classiques ou des, on va dire, des musiques un peu riches. Et on disait, bah voilà, c'est vrai que souvent, le rock a une dynamique assez faible. Alors, je m'explique, c'est un peu technique, il faut recontextualiser la sortie de cet album Brother in Arms en 1985 et donc accompagné par une grande campagne de promotion pour le support CD. Quand on écoute un vinyle, par exemple, la dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dynamique ? La dynamique, c'est la différence entre le son le plus faible et le plus fort. Si on prend une symphonie, il y a un moment où c'est très 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 faible, pour presque tendre l'oreille, puis bon, ça explose. C'est l'idée de la dynamique. Sur un support vinyle, la dynamique est généralement autour de 60, 65, voire 50 décibels entre le son le plus faible et le son le plus fort. Généralement, dans le rock, c'est assez réduit. Un groupe comme The Who, par exemple, la dynamique, elle est de 3-4. Ouais. Pas plus que ça, c'est ce qu'on appelle le gros pavé. Et lorsqu'est sorti le CD, eh bien, le support CD offre une dynamique de 95 dB. Donc, beaucoup plus importante qu'un support vinyle. Et donc, quand ils ont été en studio avec déjà l'idée d'un enregistrement numérique, ils savaient qu'ils pouvaient jouer sur la dynamique. Et quand on tend bien l'oreille sur cet album Brother in Arms, eh bien, on entend vraiment des sons qui viennent de très, très, très loin. Ce n'est pas un hasard si sur le titre Money for Nothing, c'est un son qui vient progressivement. L'intro, elle n'est pas directe. Alors, quand on écoute bien cette intro, on sent par exemple aussi les claviers. Il faut réécouter cet album vraiment en tendant l'oreille, en mettant le volume à fond. Alors, ce matin, un casque où vous mettez le volume vraiment à fond et vous allez entendre les claviers derrière. Il y a des petits sons derrière qui viennent progressivement, qui font un peu penser au générique de Miami Vice. Hein, on est en 85. Mais il faut vraiment tendre l'oreille. C'est vraiment très, très discret. Et puis, progressivement, on a cette voix de Sting qui arrive. I want my MTV.
Ah, vous le faites bien, dites donc.
qui arrive progressivement. Progressivement, chanson qui n'est pas, on l'a dit, à propos spécialement de MTV, mais ce qui est une chanson qui critique la société de consommation.
Absolument, ouais.
Voilà, je veux, parce que je veux ma télévision musicale, je veux ma voiture, je veux ceci, je veux ça. C'est, voilà, une vraie critique contre la grosse société de consommation. Un morceau qui fait quand même 8 minutes, donc on est quand même hors format, et pourtant ce titre a été un succès monumental et le reste encore aujourd'hui.
Et c'est du bonheur de réécouter cela. Merci beaucoup, Dominique. On se retrouve dimanche prochain
avec un focus sur l'album d'Elton John, Captain Fantastic.
Mais voilà, à la semaine prochaine. You do it.
guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb.
Money for Nothing, tel qu'on le retrouve hein, donc sur cet album Brothers in Arms. Et ce morceau ici, je parlais de la Gibson Les Paul, hein, c'est avec une Les Paul que donc Mark Knopfler l'a enregistré. Et pour avoir ce son si particulier, il y a un élément aussi qu'on connaît un petit peu moins. Enfin, l'élément on le connaît, c'est une pédale wah-wah. Si ce n'est que Mark Knopfler, ce qu'il a fait, c'est qu'il a allumé sa pédale wah-wah et il l'a mise, on va dire en position ouverte. Donc la pédale relevée vers le haut et ça a donné ce son si particulier. Elle reste en position fixe, il n'y touche quasiment pas, même pas du tout, pendant qu'il joue cette chanson et ça a donné cette couleur si particulière. Merci encore à Dominique Raguet.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.